Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Betza, page 2, Daf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Cette maserhet, appelée par certains rishonim maserhet Yom Tov, traite essentiellement les halachot concernant Yom Tov. Pendant la fête de Yom Tov, contrairement au Shabbat où tous les types de travaux sont interdits, la Torah a permis les travaux nécessaires à la préparation de la nourriture. Cependant, les travaux permettant la préparation de la nourriture, comme le labour et la moisson, etc., resteront interdits. Les Chachamim ont défini la limite entre les travaux permis Yom Tov et ceux qui restent interdits, comme nous le verrons tout au long de la Maseret. La règle générale est, tout type de travail nécessaire pour la préparation du pain à partir du pétrissage de la pâte sera permis. Par contre, les autres types de travaux resteront interdits. Il y a une discussion entre les Rishonim à ce sujet, à savoir la limite des travaux permis pour la préparation de la nourriture est Minatora ou Midrabana. Nous commençons cette Maseret par la première Mishnah qui nous parle essentiellement des halachot de Moukse, qui d'ailleurs ne concerne pas uniquement le Yom Tov. Alors, ce Moukse est l'interdiction que les Chachamim ont instituée de consommer ou même de bouger tout objet non destiné à l'usage courant du Shabbat ou du Yom Tov, et dont on n'a pas eu l'intention de l'utiliser pendant le Shabbat ou le Yom Tov. Cette interdiction concerne plusieurs types d'objets, allant de l'objet dont on a fermement eu l'intention de ne pas utiliser pour une raison ou une autre, par exemple des poutres destinées à la construction, ou à cause de leur valeur, elles ne sont pas utilisées pour autre chose, dans ce cas appelé couramment Mukhtse Mahamat Resonkis, tout le monde est d'accord que l'interdiction de Mukhtse, littéralement repoussée, mise de côté, s'applique. Jusqu'au cas de l'objet, même étant de la nourriture, mais destiné à autre chose, raison pour laquelle on décide de ne pas le manger, par exemple une poule destinée à pondre des œufs, ou une chèvre ou une vache destinée à produire du lait, etc. Dans ce cas, l'Agma, dans Shabbat Daf Yutet Amudbet, dit qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda, qui est plus strict, et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Yehuda, la loi de Mukhtse s'applique, puisqu'à l'entrée de la fête, ces animaux n'étaient pas destinés à la consommation. Rabbi Shimon, par contre, pense qu'une personne ne détache pas entièrement son esprit d'une chose qui peut être consommée, et c'est pourquoi, selon lui, la halakha de Mukhtse ne s'appliquera pas dans ce cas. Il y a aussi une autre discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Yehuda, tout objet qui était Mukhtse pour une raison ou une autre à l'entrée de Shabbat restera Mukhtse tout le Shabbat ou le Yom Tov, même si le statut de l'objet change et il n'y a plus de raison d'être Mukhtse. Par contre, selon Rabbi Shimon, si un objet change de statut pendant Shabbat, il ne sera plus Mukhtse. Il y a aussi un autre type de Mukhtse dont la Gemara parlera. C'est le cas d'un objet créé pendant Shabbat ou Yom Tov. Par exemple, de la pluie qui tombe. Avant de tomber, cette eau était sous forme de nuages. Ou bien, par exemple, de la cendre qui provient du bois ou autre brûlé pendant Shabbat. Ou même, Rabbi Shimon est d'accord que l'interdiction de Mukhtse s'applique. Ça s'appellera Nolad. Et cela parce qu'on ne pourra pas considérer qu'il avait l'intention de l'utiliser quand cette chose viendra ou sera créée, parce que son intention ne peut pas avoir de valeur puisqu'il s'agit d'une chose qui n'existe pas. Nous commençons donc le shiur de Betza Davdet. Alors la Mishnah commence. Betza Shenolda B'Yom Tov, un œuf qui aura été pendu pendant Yom Tov, Bet Shammai Omrim disent Teachel, on pourra manger cet œuf. Ou Bet Hillel Omrim disent Lo Teachel, on ne pourra pas manger cet œuf, d'ailleurs on ne pourra pas non plus le bouger parce que selon Bet Hillel, cet œuf est considéré comme Mukhtse. Nous remarquons ici que Bet Hillel sont les plus stricts alors que Bet Shammai sont plus coulants, alors que d'habitude c'est toujours le contraire, et c'est pourquoi la Mishnah cite en même temps les deux machloquettes suivantes qui n'ont pas spécialement un rapport avec le début de la Maseret, mais ce sont trois machloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos du Yom Tov, où Bet Hillel est plus strict et Bet Shammai sont plus coulants. Alors, deuxième machloquette, cette machloquette concerne l'interdiction de posséder du Hametz à Pessah, ou plutôt la quantité nécessaire pour avoir transgressé cette interdiction. Et le Hametz, donc, c'est un produit à base de céréales fermentées. Alors, Bet Shammai et Omrim disent, c'est or Bekazaït, pour transgresser l'interdiction de posséder du levain, il faudra une quantité d'un Kazaït, d'une olive, Bechamet, Bekakotevet. Et du Chamet, qui n'est pas du levain, donc c'est un produit à base de céréales fermentées, il faudra une quantité d'une date pour transgresser cette interdiction. Ou Bethelel Omrim dit Zevaze Bekazaï. Soit le levain, soit le chametz, soit pour le levain, soit pour le chametz, on transgressera l'interdiction de posséder donc cela, le chametz, avec la quantité d'une olive. Troisième machloket, Hashochet Chayav Beof Beyom Tov. Celui qui fait la shrita d'un animal sauvage, il s'agit ici par exemple d'un cerf ou d'une biche, et ou bien d'un oiseau à Yom Tov. Nous savons que celui qui fait la shrita d'un animal sauvage ou d'un oiseau, il faudra recouvrir le sang, c'est la mitzvah de Kisui Adam. En tout cas, donc, s'il a fait la shrita pendant Yom Tov et n'a pas de terre meuble prête pour procéder à cette mitzvah. Or, Bet Shammai Omrim disent, Yartor Badeker Vechase, il pourra creuser avec une pelle pour couvrir le sang. Ou Bet Hillel Omrim disent, Zolo Yishrot, il ne pourra pas faire la shrita, Elaimken, Hayalo Afar Mouchan Mibodium, seulement s'il avait de la terre meuble prête avant Yom Tov. Ou Modim, par contre, soit Bet Shammai, soit Bet Hillel sont d'accord, Shemim Shachat, s'il a effectivement fait la shrita, Shachpor Badeker Vechase, il pourra creuser avec une pelle pour accomplir cette mitzvah de Kisui Adam. La Gemara expliquera. Chez Efer Kira Mouchanvu, parce que la cendre provenant d'un fourneau est considérée comme prête, donc pas Mouktse, on peut l'utiliser pour accomplir cette mitzvah de Kisui Adam. La Gemara expliquera que veut dire ce terme de Efer, de chez Efer, où nous pouvons comprendre par ce terme que la Mishnah veut nous expliquer pourquoi il a le droit de creuser avec la pelle, et en fait ça n'a aucun sens. La Gemara reprend le passage du début de la Mishnah qui parle de l'œuf pondu pendant Yom Tov. La Gemara demande de Maaskinan, de quelqu'un on parle, il est ma betan de golet en medet l'achila, si on parle d'un œuf pondu par une poule destinée à être mangée. Maïta mag du Bethilel, quelle est la raison de Bethilel, pourquoi ils interdisent de manger l'œuf pondu par cette poule, ou chladi fatu, pour considérer cet œuf comme étant de la nourriture qui a été séparée d'un autre du morceau de nourriture, et il n'y a pas de lieu d'interdire à cause de Mouksé ou quoi que ce soit. Et là, seulement on sera obligé de dire qu'il s'agit ici de Betarnegolet Omedet Legat El Betim, d'un œuf pondu par une poule destinée à pondre des œufs. Et comme nous l'avons expliqué dans l'introduction que cette poule est Mouktse, et donc ce qui provient de cette poule aussi sera considéré comme Mouktse. La Gemara demande, Matamai de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai, pourquoi ils permettent d'utiliser cet œuf s'il a été pondu par un tov, Mouktsehi, c'est considéré comme Mouktse. Alors la Gemara s'exclame, Umaikushia, quelle était la question? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'avis de Bet Shammai? Dilma Bet Shammai, l'etle Mouktse, peut-être que Bet Shammai ne tienne pas de Mouktse, comme nous l'avons vu dans l'introduction qu'il y a une marloquette entre Rabbi Houda et Shimon à ce sujet. On peut très bien dire donc que Bet Shammai pense comme l'avis de Rabbi Shimon. La Gemara répond, Kassal Kadatim. Celui qui a posé cette question pensait, Afil ou Mandeshareb Mouktse, même Rabbi Shimon, qui permet le Mouktse, donc même si on voudrait dire que Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon, quand même, Benolad Asar. Dans le cas d'un objet créé, même Rabbi Shimon sera d'accord que c'est interdit, on considérera cette chose comme Mouktse, et donc cette œuvre qui a été pondue pendant Yom Tov pourra être considérée comme Nolad, et donc Mouktse. Et si c'est comme ça, Matamayu de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai, pourquoi ils permettent d'utiliser cette œuvre qui a été pondue pendant Yom Tov? Alors la Gemara propose une première réponse, Amar Adi Rab Nachman. Le olam betarnegolet hamedet legadel betim. Toujours pourrais-je te dire que la Mishnah nous parle d'un cas d'un œuf pondu par une poule destinée à pondre des œufs. Et donc, si c'était une poule destinée à être mangée, cet œuf aurait été permis. On considère ça comme un morceau de nourriture qui a été séparé d'un autre morceau de nourriture. Alors, la Gemara explique la marloquette de cette manière. Udeit le mukte itne nolad. Celui qui tient de l'interdiction de Mouktse tiendra compte aussi de l'interdiction de Nolad. Et donc, puisque cette poule est Mouktse, l'œuf qui provient de cette poule aussi sera considéré comme Mouktse. Ou de l'être le Mouktse, par contre, celui qui ne tient pas compte de l'interdiction de Mouktse, l'être le Nolad, ne tient pas compte aussi de l'interdiction de Nolad. En fait, nous dirons qu'il s'agit juste dans le cas de l'œuf, parce que si, selon Rabbi Shimon, qui ne tient pas compte de l'interdiction de Mouktse, dans notre cas d'une poule destinée à pondre des œufs, alors l'œuf qui a été pondu par cette poule pourra être considéré comme de la nourriture qui s'est séparé d'un autre morceau de nourriture. Et donc, nous dirons que Bet Shammai, qui est Rabbi Shimon, qui ne tient pas compte de l'interdiction de Mouktse, dans les cas où nous, que nous avons énumérés dans l'introduction, ou Bet Hillel, qui est Rabbi Yehuda, et Bet Hillel pense comme Rabbi Yehuda, qui est plus strict à propos de Mouktse. La Gemara demande, ou Mi Amar Rav Nachman Achi, est-ce que Rav Nachman a pu interpréter de cette manière, donc que Bet Hillel pense comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, de Atnan, voici que nous voyons une Mishnah dans Masechet Shabbat, Bet Shammai Omrim, disent, Magbihim Me'al HaShulchan Atzamot Uklipin, on pourra enlever de la table, après, à la suite d'un repas, les os et les pelures qui restent sur la table. Selon Rashi, il s'agit ici d'eau et de pelures qui sont immangeables même pour les animaux, voire le Pnei Yoshua. Ou Bet Hillel Omrim disent, Mesalek et Tatavla Kula Umenahara, on ne pourra pas prendre directement ses os et ses pelures, mais seulement il faudra porter la table ou l'espèce de plat sur lequel ont été déposés ses os et ses pelures, et ainsi les secouer dans la poubelle. Donc nous voyons ici que dans cette Mishnah que Bet Hillel aussi est strict à propos du Mouktse, il interdit de porter ses os directement. Ve'amar et Adir Rav Nachman, à nous, El Nanu, nous ne pouvons pas accepter la Mishnah telle qu'elle a été enseignée. En fait, mes maîtres m'ont enseigné qu'il faudra inverser l'ordre des auteurs de la Mishnah. Et là, Bet Shammai ki Rabbi Yehuda ou Bet Hillel ki Rabbi Shimon. Il faudra dire donc que Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda, qui est plus strict vis-à-vis de Mouktse, alors que Bet Hillel pense comme Rabbi Shimon, qui est plus coulant vis-à-vis de Mouktse. Et donc il faudra inverser les auteurs de la Mishnah. Nous dirons que c'est Bet Hillel qui permet de prendre directement les os et les pelures, alors que Bet Shammai interdise, il faudra le prendre par le moyen d'autre chose. Donc si c'est comme ça, comment se peut-il que dans notre Mishnah, il interprète Bet Shammai allant comme l'avis de Rabbi Shimon et Bet Hillel comme l'avis de Rabbi Yehuda? La Gemara répond, Amar Lecha, pourra te dire Rav Nachman, pour répondre à cette question, de cette manière. Gabe Shabbat, à propos de l'alachot de Shabbat, de Satam Lam Tana ki Rabbi Shimon, où l'auteur de la Mishnah, donc Rebbi, a enseigné des Mishnayot anonymes en accord avec l'avis de Rabbi Shimon, et cela pour nous montrer qu'il tient que l'alacha est comme Rabbi Shimon. Détenam, comme nous voyons dans une Mishnah de Masechet Shabbat, qui nous dit comme ça, Mechatrin et Adiluim Lifnei Behema, on a le droit de couper des courges, bien entendu il s'agit de courges ayant été récoltées avant Shabbat, donc on peut les découper pour donner à manger devant un animal. On ne dira pas qu'il s'agit d'un effort inutile pendant Shabbat. Vet hanevela lifnei haklavim. On aura le droit aussi de découper un cadavre animal. Il s'agit ici d'un animal qui est mort pendant Shabbat. On pourra quand même le découper pour le donner à manger, pour donner les morceaux à des chiens. Donc nous voyons ici que cette Mishnah est en accord avec l'avis de Rabbi Shimon, puisqu'elle permet d'utiliser un cadavre animal mort pendant Shabbat. Alors c'est pourquoi Mokimla le Bet Hillel ki Rabbi Shimon. On acceptera donc la version qui nous dit que Bet Hillel est en accord avec Rabbi Shimon et donc plus coulant vis-à-vis de la chot de Mouktse. Aval, par contre, nous tournons la page à Daf Bet Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Aval, par contre, nous tournons la page à Daf Bet Amud Bet. Gabe Yom Tov, vis-à-vis de Halachot de Yom Tov, de Satam Lantana ke Rabbi Yehuda, où l'auteur de la Mishnah dont Rabbi a enseigné des Mishnah de Rabbi Yehuda, qui est plus strict vis-à-vis de Halachot de Mouktse, et cela pour nous. Donc, pour Yom Tov, d'Etnan, comme nous voyons dans une Mishnah, El Mevak im etzin etzim minakorot, on ne pourra pas fendre du bois avec des poutres destinées à la construction. Velo minakorash mishbarab Yom Tov. On ne pourra pas non plus utiliser une poutre qui s'est brisée pendant. Nous voyons donc de cette Mishnah que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda, même d'utiliser une poutre qui a été cassée par un tov, donc qui n'est plus destinée à la construction. Selon Rabbi Shimon, ça devrait être permis. Mokimla, les Beit Hillel que Rabbi Yehuda. C'est pourquoi donc on accepte une version qui nous dit que Beit Hillel est plus strict vis-à-vis de Moukhtse comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Mishde Mans Satme le Matnitin Rebi, qu'est-ce qui était l'auteur des Mishnayot et donc qui a décidé d'enseigner des halachot anonymement dans les Mishnayot? C'est Rebi. Maïshana Beshabbat de Satam Lan que Rabbi Shimon. Quelle est la différence? Pourquoi, à propos de halachot de Shabbat, il a enseigné des Mishnayot anonymes qui sont en accord avec la vie de Rabbi Shimon? Ou Maïshana Be Yom Tov de Satam Lan que Rabbi Yehuda? Et pourquoi, à propos de l'Halachot de Yom Tov, il a enseigné des Mishnayot anonymes qui sont en accord avec la vie de Rabbi Yehuda? Finalement, c'est une contradiction. Est-ce qu'il pense comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda? La Gemara répond, Amré, on dit comme ça. Shabbat de Chamira, Rabbi pense que, puisque Shabbat est déjà grave aux yeux des gens, les gens veulent atteler les îles ou les bas, les gens donc ne viendront pas à négliger les Halachot de Shabbat, Satam Lan ki Rabbi Shimon. C'est pourquoi il a enseigné des Mishnayot anonymement qui sont en accord avec la vie de Rabbi Shimon, des Mekel qui est plus coulant vis-à-vis d'Halachot de Moukhtse, parce que même si on est plus coulant vis-à-vis d'Halachot de Moukhtse, les gens ne viendront pas à négliger les Halachot de Shabbat. Par contre, Yom Tov de Kil, Yom Tov qui est plus léger aux yeux des gens, vers les îles Zulébé, et les gens risquent de négliger les Halachot de Yom Tov, puisqu'on a le droit de faire les travaux qui concernent la préparation de la nourriture. C'est pourquoi Satam Lan ki Rabbi Yehuda. C'est pourquoi Rabbi a enseigné des Mishnayot anonymes comme la vie de Rabbi Yehuda, de Machmir, qui est plus strict vis-à-vis d'Halachot de Yom Tov, pour ne pas que les gens viennent négliger l'Halachot de Yom Tov. Or la Gemara demande, Bemayu Kimta, dans quel cas, comment est-ce qu'on a interprété cette Mishnah, Betarnegolet Omedet Egal El Betsim? Nous avons donc interprété que dans la Mishnah, il s'agissait d'un œuf pondu par une poule destiné à pondre des œufs, ou Mishum Moukhtse. Donc l'interdiction, la raison pour laquelle, selon Beit Hillel, on n'avait pas le droit de manger cet œuf, c'était à cause de Moukhtse. Yachi, si c'est comme ça, Admiflegeve Betsa, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de discuter à propos d'un œuf pondu pendant Yom Tov, les Flegou Betarnegolet? N'avait qu'à discuter à propos de la poule elle-même qui est destinée à pondre des œufs. Est-ce qu'on a le droit d'en faire la shrita pendant Yom Tov pour la manger ou non? Puisque selon Rav Nachman, c'est exactement la même discussion qu'il y aura entre Beit Shammai et Beit Hillel. La Gemara répond, la raison pour laquelle la Mishnah nous parle de l'œuf, l'odiach ha-kochan de Beit Shammai, de Benolad Shari. C'est pour nous enseigner la force de l'enseignement de Beit Shammai, ou même dans le cas de Nolad, donc un œuf qui a été créé puisqu'il a été pondu pendant Yom Tov, quand même, selon l'avis de Beit Shammai, on pourra le consommer. La Gemara demande, Vilifluge Betarnegolet, la Mishnah n'avait qu'à nous enseigner cette discussion à propos de la poule destinée à pondre des œufs, le Diacha Kochan de Beit Hillel, pour nous enseigner la force de l'enseignement de Beit Hillel, de Bemoukhtse Asre, où ils interdisent même un cas de simple Moukhtse pendant Yom Tov. Vechitema, si tu voudrais me répondre que Koach de Teradif, qu'il est mieux nous enseigner la force de l'enseignement de celui qui permet, parce que pour interdire, même en cas de doute, on pourra interdire, donc on ne voit pas tellement la force du raisonnement, alors que celui qui permet devra forcément se baser sur l'enseignement qu'il a eu de ses maîtres, ou par la force de son raisonnement. Donc on voit beaucoup plus la force de celui qui permet. Alors si tu veux me dire que c'est pourquoi la Mishnah nous a parlé de l'œuf, Vniflok Betarbayou. Alors la Mishnah n'avait qu'à nous enseigner la discussion à propos des deux cas et nous enseigner de la manière suivante. Tarnegolet, Armedet, Legal, Betsim, à propos d'une poule destinée à pondre des œufs, Hi ou Betsata, elle et son œuf, qui a été pondu pendant Yom Tov. Bet Shammai Omrim, Teachel, Bet Shammai disent qu'on pourra les consommer pendant Yom Tov, ou Bet Hillel Omrim, Lo Teachel. Et selon l'avis de Beit Hillel, on ne pourra pas les manger. Et là, Amar Rabba, c'est pourquoi Rabba propose une autre explication sur cette discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Il dit, l'olam betarnegolet omedet la'achila. Toujours pourrais-je te dire que dans la Mishnah, il s'agit d'un œuf pondu par une poule destinée à être mangée. Alors que s'il s'agissait d'une poule destinée à pondre des œufs, l'œuf aurait été interdit à cause de nolad, c'est une forme de moukhtse comme nous avons expliqué plus haut, parce que nous ne pourrons pas considérer que cet œuf soit comme de la nourriture séparée d'un autre morceau de nourriture. La question de la Gemara plus haut était, si c'est une poule destinée à être mangée, pourquoi son œuf est interdit, puisque on pourrait considérer cet œuf comme un morceau de nourriture séparé d'un autre morceau de nourriture. C'est pourquoi Rabba explique « Ubiyom Tov shechal liot achar Shabbat askinan » Il s'agit d'un Yom Tov qui suit le Shabbat, donc qui tombe un dimanche. « Umishum hachana » à cause d'un problème de préparation, ou plutôt de manque de préparation, comme nous le verrons par la suite. « De kasavar Rabba » Rabba pensait, connaissait la nature de la création de l'œuf. « Kol betza de mitialda haidna » Tout œuf pondu pendant un certain jour, mais etmol gamrala, en fait, sa création a été terminée la veille. Donc là, il se trouve que l'œuf pondu Yom Tov, qui suit le Shabbat, donc le dimanche, se trouve que sa création a été la veille, le Shabbat. Verabba betame, et Rabba va selon son opinion qu'on avait ailleurs, d'Ama Rabba, parce que Rabba a dit, Maïdirtiv, que veut dire le pasouk qui dit dans Parashat Beshalach, Vehaya bayom hashishi, Vehechinu et asher yaviu. Et le vendredi, ils prépareront ce qu'ils amèneront. Le passage continue par la suite, ceux qui veulent cuire et cuiront, etc. Donc en fait, puisque la fin du passage parle de préparation physique des aliments, Rabba comprend que le début du passage parle d'une préparation mentale ou orale des aliments. En d'autres termes, il faut que ces aliments existent avant le Shabbat, pour pouvoir les utiliser le Shabbat. Il se trouve donc que Chol Mechin le Shabbat, un jour de semaine peut préparer pour le Shabbat, c'est-à-dire un aliment peut être créé un jour de semaine pour être consommé le Shabbat, de Chol Mechel Yom Tov, un jour de semaine peut préparer des aliments pour le jour de fête. Par contre, de En Yom Tov Mechin le Shabbat, un jour de fête ne peut pas préparer ou créer des aliments pour le Shabbat, de En Shabbat Mechin Al Yom Tov, et le jour de Shabbat ne peut pas. On ne peut pas préparer des aliments pour la fête. Alors même ici, dans le cas de l'œuf, où finalement la création de l'œuf ne se fait pas par une action d'un homme, mais c'est fait naturellement par les mains d'Hachem, nous dirons que puisque la Torah insiste sur le fait que la préparation des aliments pour le Shabbat ou pour le Yom Tov doit être fait un jour de semaine, donc Bayom HaShishi, un vendredi, nous ne pourrons pas utiliser un aliment créé un jour de Shabbat ou de fête pour un autre jour de Shabbat ou un autre jour de fête. C'est une forme de nolad qui est interdit ici, Minatora, selon l'avis de Rabba. Rashi insiste sur le fait ici que nous n'ajoutons pas la phrase Ve'en Yom Tov Mechin Lechavero, puisqu'il s'agit d'ici d'une interdiction Minatora. Il n'y a pas deux jours de Yom Tov qui se suivent Minatora. Nous ajouterons aussi que puisqu'il s'agit ici d'une forme de Mouksé interdite Minatora, c'est pourquoi un œuf pondu un dimanche, donc le jour qui suit le Shabbat, ne sera pas interdit, parce que le jour de dimanche, il n'y a pas d'interdiction de Mouktseh. Les aliments consommés le dimanche n'ont pas besoin de préparation, donc ce n'est pas grave s'ils ont été préparés le Shabbat sans l'action humaine. Alors la Gemara demande, Amar le Abaye, Abaye a demandé à Rabba, Ela me'ata Yom Tov Be'almatishteri, si c'est comme ça, un jour de Yom Tov qui ne suit pas le Shabbat, on pourrait manger un œuf pondu, évidemment par une poule destinée à être mangée. Et dans notre Mishnah, il apparaît que, selon Beit Hillel, l'œuf pondu Yom Tov est interdit dans tous les cas. La Gemara répond, « Gezera mishum Yom Tov achar Shabbat. » Les Chachamim ont interdit un œuf pondu Yom Tov, de peur qu'on vienne à manger un œuf pondu un Yom Tov qui tombe un dimanche. La Gemara demande, « Shabbat d'Almatishtari, un œuf pondu le Shabbat, s'il ne suit pas le Yom Tov, devrait être permis, alors que nous verrons dans une braïta plus loin d'Av Gimel Amud Bet, où il est écrit clairement que l'œuf pondu le Shabbat est interdit. Nous ne pourrons pas dire que cette braïta va selon Beit Shammai. Selon Rav Nachman, nous n'avons pas posé cette question, parce que nous aurions très bien pu dire que cette braïta va selon l'avis de Rabbi Yehuda. Halagma répond, Gezera Mishum Shabbat Achar Yom Tov. Les Chachamim ont interdit l'œuf pondu le Shabbat, qui ne suit pas un Yom Tov, de peur qu'on vienne à manger l'œuf pondu un Shabbat qui suit un Yom Tov, donc dans le cas où le Yom Tov tombe le vendredi. La Gemara demande, « Umi Gazrinan, est-ce qu'on a fait une gzera, est-ce que les Chachamim ont décrété une interdiction sur des œufs de peur qu'on vienne à manger un œuf qui est interdit mais Minatora ?»« Vatania, voici que nous voyons dans une braïta, « Hashochet et Tarnegolet, celui qui fait la shrita d'une poule, « Umatzaba betzim gmurot, et il trouve dans cette poule des œufs déjà entièrement formés. » Mutarot le Ochlan Beyom Tov, on aura le droit de les manger même ce jour de Yom Tov. La Gemara demande, Vimita l'exar meshum hanach, de mitial dan beyomehen. Et si nous voyons que le Chachamim décrète une interdiction sur les œufs, de peur qu'on vienne à transgresser l'interdiction minatora de manger un œuf, qui sont interdits minatora, nous aurions dû interdire aussi ces œufs trouvés formés dans la poule, de peur qu'on vienne à manger des œufs pondus le jour même. Et on devrait donc interdire au moins des œufs trouvés dans une poule si on a fait la shrita le jour du Yom Tov, qui soit un Shabbat, où là, si les œufs avaient été pondus le jour même, ils auraient été interdits minatora. L'Agma répond, Amarle, Rabba a répondu, Betim gmurot beme'e iman milta de l'oshrihai. Il n'est pas habituel de trouver des œufs entièrement formés dans les entrailles d'une poule, parce que comme le Ramban explique dans Shabbat, Davkuf Kafal Afamudbet, d'ailleurs il est ramené dans le Shitam Kubetset sur place, que les poules ne pondent pas tout le temps, et donc il est peu probable qu'une personne fasse la shrita d'une poule qui est dans sa période de pondaison. Donc, Umilta de l'Oshricha, Logazo Barabanan, et Nechachamim n'ont pas émis de décret pour quelque chose qui n'est pas habituel. C'est pourquoi, donc, les œufs formés qu'on trouve dans la poule ne seront pas interdits, Midrabanan. Nous avons fini le shiur de Betsadav Bet. Nous commençons le shiur de Betsadav Gimel. Nous commençons d'Av Bet Amud Bet en bas de la page. Nous avons vu, donc, la Mishnah, et dans la Mishnah, une machloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir si l'œuf pondu, le Yom Tov, était interdit ou non. Selon Bet Hillel, cet œuf était interdit. Et nous avons déjà proposé dans le Daf Bet plusieurs explications, deux explications à ce sujet. Rav Yosef dit une autre explication à ce sujet, pourquoi cet œuf est interdit selon Bet Hillel. Il s'agit ici d'un œuf pondu par une poule destinée à être mangée, et l'interdiction selon Bet Hillel est Gezera Mishum Perot Anoshrim. Les Chachamim ont émis un décret, donc décrété une interdiction sur ces œufs, de peur qu'on vienne à manger des fruits tombés de l'arbre. Amar le Abaye, Abaye a dit à Rav Yosef, Perot Anoshrim Tamamai, pourquoi les fruits tombés de l'arbre sont interdits? Nous passons à Daf Gimelamud Aleph. Gezera Shemaya Levitlo.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.